Ce podcast vous est présenté en partenariat avec Digital Wallonia for AI.
L'intelligence artificielle est partout autour de nous. Et dans votre entreprise ? C'est le moment de vous lancer. Exploitez le potentiel de l'IA et boostez votre entreprise. Avec Digital Wallonia, bénéficiez d'un soutien financier et d'une équipe d'experts à vos côtés. Inscrivez-vous dès maintenant sur digitalwallonia.be/IA.
Le soir, repensons notre quotidien.
Bonjour, vous écoutez À propos, le podcast d'actualité du journal Le Soir. Tous les jours, c'est l'expertise de notre rédaction dans vos oreilles. On continue notre plongée dans le monde de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, l'IA va-t-elle remplacer les profs ou aider les élèves à rédiger leur dissertation ? Je m'appelle Pierre Fagnard. À propos, voici l'actualité, comme vous l'entendez.
Grand angle.
Cette semaine, le podcast du soir s'intéresse à l'intelligence artificielle. Omniprésente dans les médias depuis fin 2022 et le lancement de ChatGPT, l'IA fascine autant qu'elle effraie. Mais concrètement, quel est son impact sur nos vies, travail, santé ou encore enseignement ? On verra comment l'intelligence artificielle peut intervenir dans ces domaines aujourd'hui, mais surtout demain. Comment contrôler ses usages et donc ses possibles dérives ? Chaque jour, avec un journaliste de la rédaction, on décryptera l'influence de l'intelligence artificielle sur un aspect concret de votre quotidien. Aujourd'hui, on va voir ce qu'elle peut changer, ce qu'elle change déjà en matière d'enseignement avec Charlotte Hutin, journaliste au Pôle Société.
Bonjour Charlotte.
Bonjour Julien.
Quand l'intelligence artificielle générative a été lancée pour le grand public avec en tête ChatGPT, il y a eu une levée de bouclier au niveau des universités. De quoi avait-elle peur ?
Alors la levée de boucliers, ça a plutôt eu lieu en France. Il y a eu quelques exemples comme Sciences Po Paris qui a très vite, quelques mois après la sortie de ChatGPT, a décidé d'interdire son utilisation par les étudiants. Enfin, de l'interdire tant qu'elle n'était pas mentionnée. Les étudiants étaient obligés de la mentionner dans leurs travaux. Chez nous, on n'a pas eu de grosses déclarations ou levées de boucliers de la part des établissements, avec évidemment des inquiétudes au sein des facultés et certains profs qui étaient plus inquiets que d'autres. Mais elles ont plutôt décidé de lancer au sein de chaque établissement des groupes de travail, en fait, composés de plusieurs enseignants et experts en la matière, pour voir un peu comment évoluait l'outil qui a évolué, et qui continue d'évoluer très rapidement, donc pour faire une veille scientifique, mais aussi pour voir comment les étudiants s'en accaparaient ou non. Il y a eu tous ces groupes de travail qui ont attendu un petit peu avant de rendre leurs conclusions. Mais de quoi ils avaient peur, c'était avant tout en fait de la tricherie, que l'étudiant sous-traite une partie de son travail à la machine, notamment pour rendre des rapports de stage, pour faire des dissertations, des rapports écrits qui ont plutôt lieu à domicile. On sait que dans l'enseignement supérieur, il y a quand même une partie des travaux qui se réalisent à domicile dans la rédaction de textes. Et donc c'était plus cette crainte de tricherie qui est apparue en premier lieu.
Et en Belgique, est-ce qu'on a observé un phénomène de triche généralisée grâce à l'intelligence artificielle ?
Alors, on a contacté toutes les universités de la Fédération Wallonie-Bruxelles, plus quelques hautes écoles, et le constat est assez identique. Il n'y a pas eu de vague de tricherie comme ça a pu être attendu à un moment donné, enfin, en tout cas, au lancement de l'outil. En fait, ce que disent les universités et les hautes écoles, c'est que ça a eu beaucoup moins d'impact, en fait, que la crise sanitaire et l'enseignement à distance, où là, ils ont clairement vu des cas de tricherie et des taux de réussite en forte augmentation. Là, ça n'a pas été le cas. Alors, il y a eu évidemment des phénomènes de triche isolés. Les enseignants disent le remarquer assez facilement parce que l'intelligence artificielle, même si elle simule un langage naturel, elle a quand même certains tics de langage. Elle va sortir des banalités, elle va éviter de se positionner. Il n'y a aussi aucune faute d'orthographe, ce qui est parfois rare dans un travail d'étudiant. Et donc voilà, en général, les enseignants disent qu'ils le détectent assez facilement. Après, c'est peut-être la partie émergée de l'iceberg. Et il y a tous les travaux réalisés avec l'IA qui sont indétectables.
Au sein des entreprises, certains employés craignent d'être remplacés par l'intelligence artificielle. Est-ce que cette peur, elle existe aussi dans l'enseignement ?
Alors au départ, oui, ça a été un peu le cas comme avec les MOOC, où on pensait qu'il n'y aurait plus d'université, mais que tous les étudiants allaient s'inscrire à des cours en ligne, des MOOC, et qu'il n'y aurait plus besoin d'avoir des universités physiques. Mais très vite, les enseignants se sont rendus compte en fait que leur rôle était d'autant plus important pour détricoter un peu ce qui est le vrai du faux, permettre de développer une analyse critique face à l'outil qui dit quand même parfois des absurdités. et aussi le fait que ça ait fait suite à la crise sanitaire où là l'enseignement était à distance et où beaucoup d'élèves ont peut-être pu décrocher parce qu'ils n'avaient pas le contact relationnel en fait avec leurs autres camarades de classe et aussi l'enseignant. Je pense que ça a montré quand même que le contact humain était et restait important. Donc il n'y a pas énormément de craintes à ce niveau-là, juste des craintes quant à la manière de devoir adapter son enseignement ainsi que ses méthodes d'évaluation.
Et justement aujourd'hui, quelle est l'approche adoptée par les universités vis-à-vis de l'IA?
Alors il n'y a pas de réglementation généralisée à la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est encore une fois... Ça repose en fait sur la liberté pédagogique de chaque établissement et de chaque enseignant. Ce qu'on voit, c'est que les universités intègrent quand même ça dans certaines chartes. Donc il n'y a aucun établissement qui l'interdit formellement. Les étudiants peuvent l'utiliser. Évidemment, il y a des guidelines. Et la première, c'est que l'enseignant puisse vérifier par le travail de l'étudiant qu'il a acquis les compétences. Donc si un enseignant dit que dans tel travail ou dans telle évaluation, l'intelligence artificielle est interdite, logiquement, l'étudiant n'est pas censé l'utiliser. On pense évidemment au travail de réalisation du travail de fin d'études, où là, encore une fois, l'utilisation de l'intelligence artificielle n'est pas interdite, mais... l'étudiant doit faire preuve de transparence en mentionnant les passages où il s'est aidé de l'intelligence artificielle et s'il l'a utilisé, expliquer de quelle manière il l'a utilisé.
Comment l'enseignement supérieur s'adapte à cette révolution portée par l'intelligence artificielle?
Alors pour l'instant, il n'y a pas encore de mesures généralisées, par exemple pour former l'ensemble des enseignants ou l'ensemble de la communauté académique. À partir de l'année prochaine, par exemple, l'UNAMUR va proposer un cours à tous ses étudiants de Bac 3 sur base volontaire. Il y a aussi l'ULB qui envisage à partir de l'année prochaine de former toute sa communauté académique en commençant par les professeurs, puis le personnel scientifique et à la fin les étudiants. Sinon, pour l'instant, c'est plus du cas par cas où en fonction de la sensibilité de l'enseignant, il va l'aborder en classe, même utiliser l'intelligence artificielle dans sa pédagogie. Donc voilà, ça se fait un peu au cas par cas sur base d'initiatives propres, mais de manière générale, dans toutes les facultés, il y a au minimum un enseignant qui est un peu familiarisé à l'intelligence artificielle et qui va l'aborder. Souvent, ça l'est en fin de cursus lors de la réalisation du travail de fin d'études où il y a une partie éthique et méthodologie et où là, l'intelligence artificielle est souvent abordée. Il y a aussi des formations sur base volontaire auxquelles les professeurs peuvent accéder. En général, tous les catalogues de formation ont inclus l'intelligence artificielle, mais encore une fois, c'est sur base volontaire et non obligatoire.
L'IA est évidemment un outil de triche potentielle. Les universités ont-elles modifié leur méthode d'évaluation en conséquence?
Alors encore une fois, il n'y a pas de politique générale en la matière. Après, les universités rappellent que le but de l'évaluation, c'est quand même de pouvoir vérifier des compétences acquises. Et donc, il revient aux enseignants d'adapter leur mode d'évaluation en conséquence. Certains l'ont déjà fait. Ils ont par exemple, au lieu de faire un travail à domicile, ils le font faire en amphithéâtre. Ils ont parfois remplacé un travail écrit par un examen oral. Ou alors même, ils utilisent l'intelligence artificielle dans l'évaluation, par exemple en demandant à l'étudiant de critiquer une production réalisée par l'intelligence artificielle pour faire preuve d'esprit critique. Donc voilà, ils essayent en général d'adapter leur mode d'évaluation. Et lorsqu'ils ont un doute ou qu'ils suspectent en fait que l'intelligence artificielle a été utilisée, ils peuvent soit confronter l'étudiant, lui demander des explications à l'oral. Il y a aussi certaines facultés qui ont adapté leur pondération lors du travail de fin d'études. Donc par exemple, le mémoire, au lieu d'avoir une cotation de 80% pour la part écrite et 20% pour l'oral, ça varie légèrement et on accorde plus d'importance à l'oral qu'à l'écrit.
Tu parlais de doutes. Est-ce qu'ils ont des outils pour vérifier ces doutes?
Alors il y a plusieurs outils. En fait, dès l'émergence de ChatGPT, il y a eu plein d'outils qui sont sortis sur le marché pour justement essayer de détecter l'utilisation de l'intelligence artificielle. Parce que contrairement au plagiat, ça se détecte beaucoup moins facilement, étant donné qu'il y a une réécriture d'informations. Et donc, il y a des outils qui existent, mais dont l'efficacité est assez variable. Et en fait, elles peuvent parfois produire des faux positifs, c'est-à-dire qu'elles détectent un travail comme étant fait par l'intelligence artificielle alors qu'il n'a pas été réalisé. Et on est un peu dans une course entre finalement des outils d'intelligence artificielle qui sont de plus en plus performants, de moins en moins détectables, et des outils de vérification qui essayent de s'adapter, mais on n'arrivera jamais en tout cas à un outil qui permet de détecter à 100% le recours à l'intelligence artificielle.
Est-ce que des enjeux éthiques existent autour de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'enseignement ?
Alors, il y en a trois que j'aurais envie d'épingler. Le premier, c'est la question de la fracture numérique. Il y a des étudiants qui vont être très bien formés à l'intelligence artificielle, d'autres qui ne le seront pas et qui l'utiliseront de manière assez basique. Alors que pour obtenir toutes les potentialités de l'outil, il faut quand même savoir, il y a quand même une manière de s'adresser à l'intelligence artificielle. On parle notamment de prompt, donc c'est la requête qu'on fait à l'intelligence artificielle. Il faut pouvoir s'exprimer, donner le contexte lorsqu'on veut poser une question à l'outil, et ça nécessite aussi de savoir correctement s'exprimer dans la langue maternelle, et il y a des étudiants qui maîtrisent plus ou moins leur langue maternelle. Donc il y a vraiment un risque de fracture numérique. Le deuxième enjeu éthique, c'est que ces outils d'intelligence artificielle présentent des biais. Il peut y avoir des biais racistes, sexistes, anti-pauvres. Ça dépend en fait de la base de données à partir de laquelle l'intelligence artificielle a été enrichie. On sait que ChatGPT se base sur une base de données principalement américaine, et donc il peut y avoir des biais dans les informations qui sont sélectionnées par l'outil. Et enfin, le dernier enjeu éthique, je dirais que c'est la question de la propriété intellectuelle, surtout à l'université. Évidemment, toutes les informations que l'étudiant ou l'enseignant va partager dans ChatGPT va potentiellement pouvoir être réutilisée par l'outil dans sa base de données. Et donc, il y a des universités qui se questionnent quant à la possibilité, par exemple, de mettre l'entièreté des cours en ligne, enfin, des cours dans ChatGPT, et donc qui essayent de développer leur propre chatbot qui se baserait uniquement sur leur base de données à eux. Mais donc, c'est des outils qui coûtent un peu plus cher. Et donc, il y a cette question de propriété intellectuelle. Qu'est-ce que les universités et les étudiants peuvent partager sur les chatbots?
Merci, Charlotte.
Merci.
À propos, c'est fini pour aujourd'hui, mais on revient demain matin. Dans la perspective des élections, Le Soir organise des rencontres débats entre des présidents de parti et des abonnés. Si vous avez envie de participer, il suffit de vous inscrire sur le site bonsoir.lesoir.be. En vous inscrivant, vous aurez aussi la possibilité de poser votre question. Merci pour votre écoute et à demain.
Ce podcast vous a été présenté en partenariat avec Digital Wallonia for AI.